Podcast.
Je me demande vraiment de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui.
Oh là là, j'espère que ça n'a pas d'implication avec un milliardaire quelconque et un réseau social quelconque dans un pays quelconque. Non, écoute, je pense que tu as raison. Tout comme pour les élections, nous étions le sanctuaire des personnes qui voulaient entendre parler d'autre chose que de cette élection. Nous serons le sanctuaire des personnes qui veulent entendre parler d'autre chose que Twitter et Elon Musk.
Je ferai seulement un commentaire qui est que les gens qui prétendent qu'il faut plus de liberté d'expression sont en général les gens qui considèrent par liberté d'expression que seule leur expression compte.
Oui. Je suis très embêté parce que je suis extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je crois que je pourrais pas être plus d'accord avec ça.
44 milliards de dollars, c'est pas cher payé finalement pour s'acheter un énorme porte-voix pour continuer à propager tes insanités libertariennes, ton fond de racisme, parce qu'il faut jamais oublier d'où cette personne vient et qui sont ses parents et d'où vient sa fortune. Et finalement, 44 milliards de dollars, c'est le prix de la démocratie, c'est le prix de la raison, c'est le prix d'une certaine conception de la place publique en ligne. Et finalement, 44 milliards de dollars, bah, c'est pas si cher pour acheter tout ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, parce que sinon je vais m'énerver. Or, je considère ce podcast comme un espace où je ne m'énerve pas, un espace où au contraire... J'essaie d'interroger les choses de manière positive. Donc, forcément, faut pas parler de Musk. Regardez.
En vrai, je vais quand même ouvrir une parenthèse, mais pas directement sur ce sujet-là. Allez. Je précise, c'est pas tout à fait. Enfin,
je te la donne.
C'est pas lié à la personne elle-même. Donc, tu peux être rassuré là-dessus. La liberté d'expression, est-ce que c'est vraiment souhaitable au final? Parce que, enfin, je suis volontairement un peu taquin quand je pose la question comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que certaines expressions sont tout à fait bannissables.
tu l'auras voulu. Les abrutis. Et par abrutis, je veux dire Musk et sa clique et une bonne partie des Français qui ont voté ce qu'on sait le week-end dernier, prétendent que la liberté d'expression est quelque chose absolument absolu qui s'applique tout le temps, partout, et encore une fois, que seule leur expression à eux prévaut. Or, c'est pas du tout ça. La liberté d'expression, c'est une liberté qui s'applique uniquement face à l'État. Elle ne s'applique pas aux individus, elle ne s'applique pas aux entreprises, elle s'applique uniquement à l'État. La liberté d'expression, c'est la garantie que l'État ne t'empêchera pas de parler. Mm. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est une liberté de parler, pas une obligation d'être entendu. Enfin, c'est tout et c'est déjà pas mal. C'est
oui.
Grandiose,
c'est...
mais c'est tout.
Oui.
Mais enfin, regardez pour de vrai cette fois-ci.
Eh bien, qu'ai-je regardé, Anthony, qu'ai-je regardé? Eh bien, j'ai perdu, je crois, entre 2 et 5 heures de mon temps parce que j'ai regardé deux films assez mauvais. L'un, enfin les deux, j'étais une victime consentante. Pour les deux, j'étais une victime consentante, donc je peux pas non plus me plaindre. C'était Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Non, bah c'est bien parce qu'on comprend pourquoi Dumbledore commence par Dumb. Et non, y a rien qui fait sens. Y a absolument rien qui fait sens. Même la magie ne fait pas sens en fait. C'est ça le truc.
Je te suspecte quand même de regarder ce genre de film pour avoir le plaisir
oui,
de
sûr.
Faire ce genre de mauvaise blague.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, en plus, très objectivement, en plus, j'ai passé un bon moment devant, parce que je savais à quoi m'attendre, et c'était un moment de pure décérébration, et j'ai eu ce que je voulais. Voilà. C'est comme. Enfin, on m'a un peu lynché pour avoir dit que j'avais pas aimé Turning Red, alors qu'en fait, si, j'ai passé un bon moment dans l'absolu, c'est juste que dans ce podcast, j'essaie de déconstruire un petit peu mon expérience, et de voir aussi pourquoi. D'interroger en fait le vu que tu es un peu mon double négatif, mon doppelganger, j'essaie de voir.
T'as dit négatif, pas maléfique. Je note.
Oui. Non, oui, effectivement, je pense pas. On en parlera dans le prochain épisode. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, j'ai passé quand même un bon moment devant Turning Red. Pardon Fabrice, si tu m'entends. Et devant Les Animaux Fantastiques aussi, c'était pas... C'est, en fait, c'était même... j'ai toujours peur de perdre pied quand je regarde un film. Et ça m'arrive souvent. Mm. C'est-à-dire que j'arrive pas à réfléchir devant un film. J'ai trop d'images, trop de sensations, j'arrive pas. Et si je voulais vraiment regarder sérieusement un film, il faudrait que je le voie plusieurs fois. Et là, du coup, j'étais assez content. Je suis toujours un peu rassuré quand j'arrive à éprouver des choses intellectuelles devant un film. Et c'est le cas ici, parce que j'ai pu voir que les choses n'allaient pas. Et du coup, ça m'a un peu rassuré aussi. Et donc, ça m'a permis de passer un bon moment de manière un peu paradoxale. Le deuxième film que j'ai vu, qu'on a vu hier soir, c'était Kong versus Godzilla, ou Godzilla versus Kong, je crois. Alors, j'ai quand même été un petit peu déçu. Parce que je m'attendais à... Ouais, franchement, j'avais vu Godzilla, Roi des monstres, je crois, celui qui était juste avant, où, tu sais, il se charge à l'énergie, je sais pas quoi, il est tout bleu, il brille et tout. Et j'avais assez bien aimé, mais là, je sais pas, c'était trop... c'était un poil too much, tu vois. Je pense qu'il y avait pas ce que je voulais, qui était... C'était un peu trop sur l'humanité de Kong, et pas assez sur les gros proux dans la ville, tu vois.
Oui, alors que c'est... J'ai une petite faiblesse pour les Godzilla, mais justement parce qu'il y a les prou-prou dans la vie.
Ah, bien sûr, c'est ce que je voulais aussi.
Il y a un côté Power Rangers, si tu veux, mais avec des gros lézards qui parlent à quelque chose de très primaire dans mon cerveau.
Est-ce que t'avais aimé Pacific Rim, tiens?
Oui.
C'était bien, ça aussi, tu vois.
Oui, oui. Ouais. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, d'en voir un morceau dans une salle Dolby Atmos chez Son Vidéo. Et où... C'est une expérience cinématographique... au sens premier du terme, quoi, où t'en prends plein la tronche.
C'est ça.
Enfin, c'est une expérience physique, quoi. Tu vas au spectacle, de manière très littérale, quoi, très... Et j'ai une petite faiblesse pour ce genre de film.
Je la comprends.
Jamais je l'avouerai publiquement, et c'est pour ça que tout ça sera coupé au montage. mais en fait, non, parce que vous m'entendez, là, encore. Mais ouais. Alors que tu vois, moi qui ai regardé OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, ça, tu vois, c'est pas un péché mignon du tout. Pas du tout. C'était nul, mais genre nul, quoi.
C'est triste. C'est triste.
Je crois que Nicolas Bedos est beaucoup moins subtil que son père, et ça se sent. Et je crois que l'excuse du second degré, qui est de dire c'est OSS 117, on s'amuse avec les clichés, et on s'amuse avec... avec la France-Afrique, avec le racisme et tout ça. Quand c'est à ce point lourd, j'ai du mal à distinguer le second degré du premier degré.
Ouais.
Et plus je lis ce qu'écrit Nicolas Bedos et plus j'écoute ce que dit Nicolas Bedos, plus j'ai l'impression que ce second degré est vraiment du premier degré. Et qu'on est face à un gars bien lourd, bien gras, et un tantinet beauf, quoi. Et pour de vrai, pas juste pour amuser la galerie.
C'est le son de cloche que j'ai eu aussi de mon côté, où dans les deux premiers on avait, on se moquait surtout du héros, quoi, bien sûr.
Oui.
Là, il paraît que c'est moins le cas, ouais.
Oui, oui, et je crains que, c'est-à-dire quand tu te moquais du héros et qu'à travers le héros tu te moquais de la France, là ça marchait, et là c'est pas le cas. Et donc je crois que ça dit des choses qui sont, qui auraient été inaudibles il y a quelques années de toute manière, mais qui aujourd'hui le sont encore plus.
Ouais.
J'ai aussi regardé, c'était un peu plus subtil, Alice et le maire qui passait sur Arte là, ces derniers jours, de Nicolas Pariser, je sais pas. Bah voilà, donc Nicolas a un avis sur la mort de la social-démocratie, très clairement. et j'ai bien aimé cette espèce de figure de Colomb, à tel point que pendant une heure et demie, j'ai presque oublié le vrai visage de Gérard Colomb, l'ancien maire de Lyon.
Ah, intéressant, ça.
Et c'est intéressant, il fait passer son avis dans un film qui est très très verbeux, sans la moindre intrigue, mais vraiment pas, quoi.
Oui, c'est très tableau, en fait.
Oui, oui. Ça m'a donné l'impression... J'écoutais ce matin l'interview de François Hollande sur France Info... Ça m'a donné l'impression de finir comme la social-démocratie elle-même. C'est une énorme queue de poisson. tout ça pour ça. et dans ce sens-là, c'est un bel hommage.
Ok. Ouais.
Après, il est servi par un casting de folie parce que presque tout le long du film, tu as uniquement deux acteurs à l'écran, notamment ces longues tirades de Lucchini, et c'est un plaisir, quoi. Ça passe très, 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 très bien. Mais quelque part, le propos est presque dépassé par son incarnation, quoi. Il y a un côté un peu naïf, quoi.
Oui, c'est ça.
Il faut réinventer la social-démocratie à l'aune de l'écologie, monsieur le maire.
Grande nouvelle. c'est le sentiment que j'ai eu, mais que tu dis beaucoup mieux que moi parce que j'avais pas réussi à mettre les mots dessus. mais je reconnais du coup ce que j'ai ressenti en voyant ça, notamment la fin, effectivement. Ça finit vraiment en queue de poisson et on se demande, mais ça peut pas finir comme ça. On est un peu surpris de voir l'écran final arriver. Et genre, mais, ah bon.
Ah, on s'est regardé tous les deux avec Cécile en mode, ah tiens, ça
oui,
s'arrête là.
Bah, pareil avec Adrien.
Et puis alors vous, ça vous le fait évidemment pas, mais nous qui sommes lyonnais et qui en plus connaissons bien les lieux, voir Alice prendre le tramway et sauter magiquement du tramway T1 au tramway T2 et aller en avant et en arrière sans bouger de place dans le tramway, y a eu des petits soucis au montage là quand même.
Ouais, ça c'est dommage quand même, pour un film local. Autant dans Mission Impossible, quand il passe de la vue de l'opéra, tu vois...
À la tour Eiffel,
sans sourciller. Bon, c'est Mission Impossible, on va pas demander aux Américains non plus d'être subtils, tu vois, ce serait bizarre, mais là, quand même...
Ouais, là, parfois, il y a des moments où le Rhône et la Saône se confondent, enfin, c'est assez intéressant.
Quelle indignité.
Écoutez, alors.
Eh bien, j'écouta 3 albums cette dernière quinzaine. Le premier de Luke Hemmings, qui s'appelle When Facing the Things We Turn Away From. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est un Australien. A priori, il vient d'un boys band qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Et en fait, donc il fait sa carrière solo là depuis... Enfin, c'est un album post-confinement, comme beaucoup d'albums deux dernières années, bizarrement. Et bah alors, c'est bien gentil, mais j'ai toujours du mal à y adhérer. Bon, c'est quand même très jeune, déjà, de base. Donc c'est quand même un peu midinette, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, je voudrais pas être...
Et tu ne l'es plus.
Voilà, franchement, je crois que je le suis plus. Je crois que j'ai passé ce stade, malgré ce que j'écoute en cachette, pas tant en cachette que ça, parce que ça se voit sur mon historique, je pense, Apple Music. Mais même pour moi, c'est un peu midinette, quand même. Ça ressemble beaucoup à la trajectoire d'Harry Styles de One Direction, sauf que Harry Styles le fait avec, je crois, plus de talent et d'authenticité, et moins de midinette, un petit peu moins de midinette. En tout cas, il a réussi à transcender ça.
Tu dis des mots et je sais que je suis censé les comprendre et je hoche de la tête et d'accord.
Faudra que t'écoutes Harry Styles, son prochain album sort bientôt là. Je pense que tu aimerais bien. Sinon, j'ai écouté Park de Park. J'aime ce genre d'album éponyme, c'est parfait. C'est la fusion de François-Marie de chez François and the Atlas Mountains.
Jusque-là, je te suis.
Ouais, avec le groupe Les Istrata, le groupe de rock français Les Istrata. Enfin,
de rock qui est un peu fort, ouais.
Ouais, c'est du rock un peu fort, mais écoutable, hein. C'est écoutable.
Ah, surtout quand tu mets le volume un peu fort. Je confirme.
Oui. Ouais. Mais du coup, c'est très intéressant de voir François se frotter à ce genre musical qu'il n'avait pas touché auparavant. Et c'est une greffe qui surprend, mais qui prend quand même.
Mais alors, ça tire de quel côté? Est-ce que ça tire du côté plus pop ou du côté plus rock?
Quand même plus pop.
D'accord.
Plus pop. Mais c'était déjà auguré dans le deuxième album de Lizistrata. On sentait déjà un petit tournant dans le son. Quelque chose de, à la fois... Je ne sais pas comment ils font ça. C'est à la fois sophistiqué, mais très brutal.
Mais ils font ça avec du talent, mon grand.
Bah, c'est pour ça, en fait. C'est ça le secret. Ah merde. C'est donc ça dont je manque. Bon, voilà, c'est ça. Non, voilà, c'est un son qui est acéré dans le deuxième album de Lizistrata, mais quand même fouillé, tu vois. Et là, on voit encore cette évolution-là, avec quand même quelque chose de plus adouci, globalement, je trouve. Et j'aime beaucoup les textes. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit les 4 personnes du groupe qui chantent aussi. Qui est 4 chanteurs dans le groupe, ça me plaît beaucoup. Et le dernier album que j'ai écouté est d'une jeune femme dont je vais écorcher le nom, qui s'appelle Wise Blood. L'album s'appelle Titanic Rising, Il date d'il y a un an, je crois. J'ai découvert cette jeune femme depuis un duo, enfin en l'occurrence même un trio sur le dernier album de Lana Del Rey. Pas très connu. Et
même moi je connais.
Ah. On sent, j'aime beaucoup la voix, on sent l'influence de Karen Carpenter des Carpenters, beaucoup. Ouais. C'est cette espèce de douceur mélodique assez chaude. Et l'écriture harmonique est très belle. Il y a beaucoup d'arrangements vocaux qui sont intéressants. Je pense que le single Movies résume bien l'album et peut-être même justifie l'album. Le reste est un petit peu verbeux, mais bon, elle est super jeune. Enfin, ça a du temps de mûrir, quoi. Je pense que c'est très intéressant et qu'il faut garder un œil sur Miss Blood.
Apple Music a une section qui regroupe les albums qui fêtent leur anniversaire. Et donc j'ai appris que Buena Vista Social Club avait 25 ans.
Ah !
Et je refuse de croire que cet album a 25 ans, puisque je me souviens de quand il est sorti. Donc ça n'est évidemment pas possible. Je pense que cet album est sorti il y a 5 ans et non pas il y a 25 ans. Mais donc non seulement j'ai réécouté Buena Vista Social Club et je me suis rendu compte à quel point avec une vraie bonne chenifie, et quand c'est correctement remasterisé, ça sonne vachement bien. Mais du coup, j'ai aussi réécouté un album qui était sorti à peu près à la même époque, qui était Introducing Ruben González, qui est formidable, et qui, pareil, 25 ans plus tard, du coup, ou quasiment 25 ans plus tard, quant à le système sonore qui va avec, et quant à maintenant avec Apple Music, des albums qui sont bien masterisés dans une bonne qualité, c'est des albums que j'avais entendus. Et maintenant je les écoute et c'est fun vraiment. J'ai essayé d'écouter de trouver deux albums qui pourraient nous convenir à tous les deux. Je crois que je me suis raté. Le premier c'était Sunrise Session 2 de Olafur Arnalds et le deuxième c'était l'album de Jamie Saft qui est un formidable jazzeux qui joue Cage et Granelli. Et j'ai cru comprendre qu'en fait non, j'ai raté mon coup, n'est-ce pas?
Alors, je suis vraiment désolé de le dire, hein. Surtout parce que Olafur Arnalds, je suis depuis un certain temps, et j'ai vu l'évolution de l'artiste, et je crois que c'est ça le problème. C'est que plus ça va, moi je suis sensible à ce qu'il fait.
Oui, alors que moi c'est l'inverse.
Ouais.
Plus ça va, plus je suis sensible à ce qu'il fait.
Ok, ça c'est intéressant, j'aimerais bien savoir, tu vois, enfin, ce qui te touche, toi. Parce que j'ai même vu en concert à Playel, juste avant le confinement. Et c'était bien, mais j'étais pas transporté. Mmh. Et je crois que c'est parce que... je soupçonne que c'est parce que l'effet de découverte s'est estompé. Et que derrière, j'ai plus grand-chose à ma... Enfin, ce qui reste n'est pas substantiel pour moi. Je soupçonne.
Et comment dire ça de manière qui sonne pas à ce point pédant que ce que je viens de penser? Non, je vais le dire comme ça. Il y a une complexification de sa simplicité.
Oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Et je crois que toi qui aimes les trucs un peu ambiants, un peu, qui drone un peu là, ça drone, mais de manière de plus en plus complexe.
Ouais. Ouais. Je crois que mon intuition, mais je pense que je me trompe, mais je pense pas. Non, je peux me tromper, mais je pense pas que je me trompe. Mais mon intuition, c'est que, il pourrait prendre le chemin inverse. Il pourrait faire quelque chose d'auditivement plus complexe, mais qui sonne plus simple.
Oui.
Et qu'il ne le fait pas, et j'ai l'intuition que c'est parce que c'est une voie de facilité un petit peu pour lui. Et en vrai, je comprends.
Mais là, quelque part, il joue. Il joue avec la musique, quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît, quoi. C'est le côté bac à sable de cette dernière production.
Ouais, ouais.
Et je comprends que toi, ils sont en train de te perdre.
Ouais. Je crois que je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Enfin, dans les premiers opus, je crois que je préférais effectivement le côté... J'ai découvert avec Near Light, un single dont la vidéo est tournée dans sa famille. Il y a le père qui joue la basse, le synthé de basse, et du coup, les notes sont numérotées pour qu'il puisse faire les bonnes notes au bon moment. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Il y a toute la famille autour, il y a les violonistes et tout ça. Et là, l'expérience de la musique, je trouvais fantastique. Mais dans les nouveaux... la magie n'opère plus, oui. Je pense que c'est parce qu'il y a cette espèce de complexification qui n'est pas tout à fait de la complexité et qui n'est pas tout à fait de la sophistication pour autant, je trouve.
Et Saft, je suis très déçu parce que t'es pas aimé parce que Saft, pour le coup, ça, on vient vraiment de l'autre bout, hein, on vient du bout du jazz, et ouais. Là, il joue quelque chose qui est au confluent du classique, alors du classique un peu allumé avec Cage, hein, et Granley, et où t'as un côté... c'est le jazz qui rencontre le classique, mais en tirant vers l'électro. Enfin, je pensais pouvoir te rattraper, là, tu vois.
Je crois que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je dis pas qu'à force d'écouter, mon oreille se fasse aussi, tu vois. C'est peut-être juste une question d'habitude. Mm. C'est pas du tout exclu. Et par contre, j'avais été beaucoup plus touché, de manière beaucoup plus immédiate aussi, par l'album de Gerald Clayton, Bells on Sand.
Oui, qui est superbe.
Pour le coup, c'était vraiment... Enfin, il n'y avait pas de frontières, en fait, pour moi.
Et Saft, il avait sorti, je ne sais pas, c'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être, You Don't Know the Life, qui est un album que... en 2019. Qui est un album qu'en 2019, j'ai dû écouter peut-être au moins une fois par semaine.
D'accord.
Ou notamment le titre éponyme, il est fantastique, quoi. Mais là, on est vraiment dans le jazz pur et dur... À propos de jazz, j'en ai écouté un paquet ces 15 derniers jours, parce que je sais pas pourquoi.
Ouais, c'est bizarre.
Ça m'arrive jamais.
Oh, non, franchement, c'est la première fois de monsieur là, je vous assure.
Non, et puis des trucs très différents. Steve Gadd, qui a maintenant plus de 70 ans, mais qui continue à tourner, c'est incroyable, qui a sorti... un enregistrement d'un concert au Blue Note de Tokyo, The Parable of the Poet de Joel Ross qui est superbe, Get On Board qui est Taj Mahal et Ray Cooder. Taj Mahal et Ray Cooder, ils étaient dans les Rising Suns. Et donc là, ils rendent hommage à Sonny Terry, à Bernie McGee qui sont, enfin, c'est un duo de blues très 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 connu. Pas d'Arnaud Jourdain, mais très 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 connu.
Désolé.
L'album est sympathique, mais je crois que Taj Mahal et Ray Cooder ont largement mérité de prendre leur retraite.
Pas comme Steve Gadd, du coup, si j'ai bien compris.
Non, pas du tout comme Gadd, il peut continuer encore.
D'accord.
et pareil, oui, de Pierre de Batman, je crois pas qu'on puisse faire plus simple comme nom d'album. Oui, eh ben oui.
Oui.
C'est tout ce que j'aime dans le jazz contemporain, enfin dans les albums de jazz contemporain dans lesquels il y a du Fender Rhodes. Avec une voix qui est utilisée comme instrument. D'habitude, j'ai un peu de mal avec ça. Et au départ, j'ai vraiment cru que c'était Esperanza Spalding. Et en fait, non, c'est une Française, Jeanne Haddad, inconnue à mon bataillon.
Ouais, je connais, elle est très bien. Très, très bien, Jeanne Haddad.
Mais, d'accord. Et si tu veux que j'en vienne à faire la comparaison avec Esperanza Spalding, qui est quand même... enfin, voilà, quoi. Ça la met tout de suite sur un niveau super élevé, quoi. Et tout l'album est comme ça, quoi. Donc... voilà, si vous aimez le jazz, écoutez Oui de Pierre de Batman. Si vous aimez la musique qui drone, vous écoutez Sunrise Session. Et si vous avez envie d'embêter Arnaud, vous écoutez Saft qui joue Cage et Granley. Ce sera drôle.
Mais surtout faites comme vous voulez, hein. On est libre de s'exprimer ici.
44 milliards. Lire.
Je crois que c'était des dollars, pas des lires. Mais puisque... Ok, je suis désolé, c'était vraiment...
Avec Twitter, on sépare.
J'avoue.
Ça pourrait commencer en dollars et finir en lire.
En roubles. J'ai commencé plusieurs bouquins, mais je ne vais pas en parler ici parce que je sais que ça me porte malheur. Donc, c'est un teaser pour les prochains épisodes, dans plusieurs années.
De 2028.
Voilà, exactement. Non, sinon, j'ai lu un article qui m'a frappé, qui s'appelle, qui a un titre assez long. Je vais juste te dire la partie qui n'est pas une citation, du coup. Pop Stars on Life After the Spotlight Moves On, ouais. De The Guardian. Une plongée très intéressante sur le monde des pop stars has-been. Donc, t'as du Suzanne Vega, t'as du. Enfin, plein de gens, en fait, que. Moi, c'est pas forcément connu, mais c'est sur un spectre assez étendu. Il y a même Robbie Williams qui parle un moment, enfin, à la fin. Ouais. Donc, comment, après ton premier souffle et ton succès immédiat, comment tu t'en remets, en fait? Et les parcours sont très différents, très intéressants. Il y a des gens qui sont. En fait, il y a au cœur de tout ça, il y a ce besoin de créer et d'avoir le lien avec le public, qui est quelque chose qui, s'il n'y avait pas ça, je pense que la personne mourrait, en fait. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à sa plénitude. s'exprimer de plein de manières différentes. Dedans, il y a une artiste qui dit, après avoir connu le succès, presque malgré elle, parce qu'elle a fait une carrière solo après le succès du groupe où elle était, et sa carrière solo a eu encore plus de succès, limite, donc elle était un peu horrifiée par ça. Elle dit, je traduis vite fait, mais je vois des gens comme Dylan et McCartney, et je me dis, si j'étais vous, j'entrerais chez moi, je profiterais de mon jardin, et que c'est une question de tempérament, au final, de continuer ou pas dans ce business, dans l'industrie, quoi. Je pense que c'est un article intéressant, non seulement sur ce qui motive les gens à créer, et sur comment tu gères l'inhumanité, non seulement de l'industrie elle-même, mais aussi le caractère non naturel de cette propulsion à la célébrité, qui elle-même n'est pas naturelle et en plus est trop rapide pour être vraiment absorbée. Donc c'est assez intéressant à voir.
Il y a un peu moins d'un mois, je suis allé visiter un data center en Suisse et j'ai pu toucher du doigt le serveur sur lequel est hébergé Metro Zen Dodo et le podcast que vous écoutez en ce moment même, ce qui est quand même une expérience assez fantastique. Et ce data center est en Suisse.
Et l'ordre nazi ?
S'il te plaît. Et ça, ce sera pas coupé au montage.
David, on t'embrasse.
En rentrant de la visite, je suis passé par la gare des Cornavins à Genève et j'ai décidé de faire mon français. Je suis monté chez Payot et je me suis rendu compte que je n'avais pas de livres suisses et donc j'ai demandé à la petite dame si elle pouvait me recommander une sélection de livres suisses. Je suis reparti en claquant tous mes francs parce que ça, pour te soutirer de l'argent, les Suisses, ils savent faire. Donc j'ai laissé mon argent en Suisse comme tant d'autres Français. Et je suis notamment reparti avec un tout petit bouquin qui s'appelle Galel de Fanny Desarzin. Et je crois pas qu'on aurait pu faire plus suisse. ça se passe dans la montagne avec trois guides. C'est très très beau. C'est écrit de manière très très sèche, très répétitive. J'en parle notamment sur Metro Zen Dodo, mais c'est c'est un joli livre et ça me fait dire que c'est assez beau la Suisse, en tout cas via ce genre d'ouvrage. Et donc je sais que dans les semaines et les mois qui viennent, je vais encore pouvoir lire Suisse puisque j'ai le reste de la pile qui revient de chez Payot.
Et surtout que tu l'as installé dans ta nouvelle bibliothèque, j'imagine.
Qui n'est pas suisse, mais vu son prix, elle pourrait l'être.
Très juste. À propos de prix, justement, qu'est-ce qu'on a acheté récemment?
Ben, justement, à propos de bibliothèque, moi, j'ai acheté Presse-Livre. et je sais que je suis monomaniaque, hein, mais je suis surpris à quel point il est difficile de trouver de bons Presse-Livres en 2022. Mais vraiment, hein. Et donc, j'ai acheté évidemment des Presse-Livres à mes prix chez Ikea. J'ai acheté des choses qu'on trouve sur Amazon. J'ai acheté des choses qu'on trouve dans les magasins de design. Et finalement, j'ai fini par acheter les Presse-Livres du fabricant de la bibliothèque, vite dessus. Et surprise, c'est les meilleurs Presse-Livres que j'ai jamais eus. non, en fait, ils se clipsent sur la lèvre des bacs de la bibliothèque. Sur les bacs de la bibliothèque, il n'y a pas une seule ligne qui n'est pas renforcée d'une manière ou d'une autre. Tout est structurel. Et donc, il y a une lèvre qui se replie, et donc le presse-livre vient s'enclencher dessus. Du coup, le presse-livre ne bouge pas, ne bascule pas. C'est quand même terrible que la plupart des presse-livres, qui sont des choses qui sont censées éviter que les livres basculent. Sauf que la plupart des presse-livres basculent eux-mêmes sous le poids des livres, ce qui est quand même emmerdant. Là, c'est pas le cas, quoi. Mais c'est assez intéressant. Je commence vraiment à me poser la question du loyer que je devrais faire payer à mes livres. Parce qu'entre la place qu'ils ont pris pendant des années, puis maintenant le prix de la bibliothèque dans lequel ils sont et le prix de tous les travaux qu'il a fallu faire autour, c'est quand même beaucoup d'argent pour me mettre des choses dans la tête, quoi. Enfin, il y en a, c'est la drogue, il y en a, c'est les bagnoles, moi c'est les bouquins, quoi.
C'est peut-être pas la pire des addictions.
Non, je crois pas non plus, mais enfin quand tu vas chez ton libraire et que ton petit folio à 7€, en fait il en vaut 3000, c'est quand même drôle.
J'ai pas acheté grand-chose ces derniers temps. Enfin, si. J'ai acheté une chose il y a littéralement 3 heures. C'est une PS5.
Pas grand-chose.
ça coûte un peu cher quand même, non? En fait, le plus insultant dans tout ça, parce que oui, c'est une expérience insultante d'acheter une PS5 en 2022, c'est que non seulement ça coûte putain de cher, mais en plus, tu dois te battre pour l'acheter. Parce que le stock est tellement limité que les magasins les lancent comme ça au compte-gouttes. Et depuis un an que cette horreur est sortie, parce que c'est quand même très moche aussi, accessoirement, en fait, t'as une fois par semaine, tu vois, t'as 10 exemplaires comme ci, comme ça, peut-être, pas sûr, et puis t'as une file d'attente et tout ça. Oh, c'est quand même, je me sens un peu insulté, mais bon, écoute, c'est fait.
Ça aussi, c'est un achat qui appelle d'autres achats, parce qu'il faut acheter des manettes, il faut acheter des accessoires, oui, il faut acheter les jeux, évidemment.
Bien entendu.
Les jeux sont... Le prix est devenu complètement indécent. Enfin, c'est...
Absurde. Absurde. Non, non, c'est quelque chose d'un peu...
Plus le service en ligne aussi.
Enfin... Ouais, qui est aussi, enfin, pour le coup, essentiel. T'es obligé de l'acheter. À un moment, enfin, faites-moi tout avec un abonnement, tant qu'à faire, et puis on sera plus simple. Je veux dire, non, comme ça, au moins, je change de console régulièrement. Tout est dans l'abonnement, quoi. Donc voilà. Mais sinon, l'autre achat que j'avais en tête, c'était une nuit dans un 5 étoiles, mais en fait, je vais pas en parler. Parce qu'en fait, c'est pas très intéressant. Objectivement, non. Je sais pas.
Mmh. Et l'ordre des nazis. Tout ce que j'ai à dire.
Ok. Je ne suis pas nazi. Anthony.
Arnaud.
Il faut que je râle sur Apple Music encore une fois. Écoute, je te prierai de te taire. Parce que.
Pour un podcast, c'est emmerdant.
Non, mais métaphoriquement, Anthony, voyons. Non, non, mais voilà. Enfin, écoute, tu avais écouté du jazz. Moi, je me plains d'Apple Music. Quelque part, on est des caricatures de nous-mêmes, quoi que d'habitude. Donc, alors, qu'est-ce que s'est passé?
C'est ce que les gens qui nous écoutent viennent chercher.
Eh bien, répète-toi, peuple, car je vais te divertir. Dans Apple Music, je cherche souvent de nouvelles musiques à écouter, notamment... motivé par ce podcast qui me force à faire des trucs avant de... Quand je vois la date d'enregistrement arriver, je me dis « Putain, Arnaud, t'as rien foutu ces deux dernières semaines. Aie une vie intéressante, s'il te plaît. » Et du coup, je me force à écouter des trucs. Et du coup, je cherche de nouvelles choses. Et du coup, naïvement, je me dis qu'Apple Music va m'aider à trouver de nouvelles choses. Parce qu'après tout, c'est peut-être son rôle en tant que service de streaming. Justement, t'as plus cette musique physiquement qui encombre ton ordinateur. Donc, c'est l'occasion d'aller explorer tout ce catalogue merveilleux de plusieurs billions de chansons. Et en fait, non. Mais genre, pas du tout. C'est-à-dire que, déjà, les recommandations que j'ai, c'est des amis qui me les donnent. Parce qu'en fait, j'y arrive pas à trouver par moi-même. Et en fait, quand je vais chercher... les canaux de découverte de nouvelles musiques, bah je suis un peu sur le cul parce que à chaque fois c'est dans une problématique qui est très particulière et que je trouve contre-productive. Je m'explique.
Et tu m'as dit de me taire, je me tais, hein, je continue.
T'as le droit de parler quand tu veux, évidemment, Tony, mais je vais d'abord expliquer le truc. Ensuite, t'as intérêt à parler. en fait, je dans ma recherche de nouvelles musiques à écouter, je parcours toujours les différentes catégories d'Apple Music et je suis toujours irrité. Je cherche pas à affirmer en fait quoi que ce soit quand j'écoute de la musique. Je cherche pas à ce que mon écoute se fasse en fonction de certaines convictions ou non convictions, dans le sens où quand je vais écouter quelque chose ou aller vers une musique, je fais par choix, par goût, où je vais choisir de sélectionner telle ou telle chose, mais plus dans ces critères-là, l'expérience est personnelle, en fait. Et là où je m'attends en général à avoir un catalogue qui est en fonction de la musique, justement, ou du genre musical, ou des choses comme ça, je me retrouve avec des manifestes qui sont plutôt politiques. Et je trouve ça un peu gênant pour au moins deux raisons. C'est que déjà, ça m'empêche, à mon sens, hein, de découvrir la musique comme moi je voudrais, de trouver des méthodes un peu transverse qui favorise la sérendipité de mon côté. Et ensuite, plus généralement, musique engagée veut pas dire bonne musique. Et souvent c'est bien gentil de me proposer des choses qui mettent en valeur tel ou tel artiste ou telle cause, mais en fait c'est pas ouf, quoi. Ça me plaît pas trop.
De quelle façon tu penses qu'Apple avance des convictions, un programme politique, enfin ce que tu veux, dans Apple Music? C'est-à-dire, c'est quoi qui te gêne? C'est La classification par genre, c'est leur liste de lecture, c'est leurs recommandations qui sont remontées par l'algorithme. Enfin, c'est quel aspect dans ce que te propose Apple Music qui te fait dire qu'ils essayent de te faire écouter des choses que tu n'as pas forcément envie d'écouter, moins par ce que l'algorithme pense de toi que par ce que Apple pense d'elle-même?
C'est une très très bonne question.
C'est pour ça que je suis journaliste. Pardon.
C'est vrai que l'algorithme est mauvais. Quand je vais dans la playlist, le mix découverte, déjà qui est difficile à trouver, je trouve, parce que faut aller dans écouter au lieu d'explorer, et c'est pas tout à fait en haut, c'est plutôt en bas. Bon, peu importe.
Oui, et contrairement il y a
Oui.
quelques mois, maintenant il remonte plus en tête de la
Exact,
section. Ouais.
exact,
Ouais.
exact. Et en fait, ce mix me fait toujours écouter des chansons que j'ai déjà écoutées.
Oui.
Pourquoi? C'est pas de la découverte dans ces cas-là, tu vois.
Mais ça, c'est un véritable problème dans Apple Music, mais qui est général, hein. C'est-à-dire que quand le service a ouvert, il te demandait d'indiquer des genres que tu aimais ou détestais et des artistes que tu aimais ou détestais. Et il prenait en compte uniquement cette graine pour faire tourner l'algorithme. Alors que dans mon cas, par exemple, j'avais 15 ans d'archives d'achat dans l'iTunes Store qu'il aurait parfaitement pu reprendre. Mais ça, c'est non. Ça s'expliquait architecturellement, qui est que c'est deux plateformes différentes, mais enfin, au bout d'un moment, quand tu t'appelles Apple, c'est pas très compliqué de mettre un stagiaire pour aller récupérer la base de données de l'iTunes Store et la mettre en face de celle de Beats Music. Et encore actuellement, je trouve qu'en fait, il y a une vraie déconnexion entre ta bibliothèque et le catalogue d'Apple Music, et que tu as beau avoir déjà écouté des morceaux, tu as beau avoir ajouté des albums à ta bibliothèque, et ben il va te les reproposer. Et quelque part, le mix découverte, il part avec une idée de ce que tu dois écouter dans la semaine, parce que ça vient de sortir. Et parfois, ça vient de sortir, c'est difficile, hein, notamment avec le genre de musique que j'écoute où les sorties sont pas forcément hebdomadaires. Bah parfois, il va me reproposer le même morceau ou le même album 3, 4, 5 semaines d'affilée. Et c'est un album qui est dans ma bibliothèque depuis le jour où il est sorti, voire avant, puisque maintenant les albums arrivent en avant-première sur Apple Music. Et il sait que j'ai écouté, et il sait parfois que j'ai écouté 15 fois, quoi. Donc à quoi bon encore me le proposer dans Mix Découverte? Ça a toujours été un problème d'Apple Music, par
Oui,
ailleurs, ouais.
je suis d'accord. Ouais. Une sorte de dissociation, oui, c'est dommage.
Mais je pense pas que ce soit un choix politique, et c'est pour ça que j'interroge ce que tu racontes.
Oui, je suis d'accord. Ça répond seulement de la partie algorithmique et ça répond pas à la partie politique. La partie politique, c'est plus le sentiment que j'ai, et je sais pas si c'est la vérité ou pas, donc attention, je voudrais être très clair là-dessus. Le sentiment que j'ai, c'est que les artistes mis en avant, ou les causes mises en avant, enfin, les artistes mis en avant représentent surtout certaines causes. Et que, du coup, il y a une espèce de. Et que parfois c'est au détriment de la musique elle-même, voire de l'artiste lui-même. Par exemple, si j'ai un artiste qui est mis en avant sur une thématique particulière, du genre, je sais pas.
Il y a eu la Journée internationale des droits des femmes, il n'y a pas
Ben,
longtemps.
je pensais à ça, mais. Ouais. Parce que, tu vois, la Journée internationale des droits des femmes, c'est quelque chose qui est quand même dans le calendrier, c'est un événement global, comme la Journée de la Terre. Éventuellement, je peux comprendre qu'il y ait un focus là-dessus. C'est pas trop le problème. C'est plus les trucs un peu random. J'en cherche un, mais j'en trouve évidemment pas. Attends, je vais aller directement dessus. Le problème, c'est que je sais que ce que je suis en train de dire est réac, mais je sais aussi qu'il y a du vrai dedans. Et je cherche le vrai. Genre, par exemple, Apple va me proposer une playlist sur les fiertés ou sur, je sais pas, peu importe. Et du coup, c'est un contenu qui automatiquement devient militant, je trouve. Ce qui m'embête avec ça, c'est que c'est pas ce que je recherche. Enfin, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de proposer ça. Je pense que c'est plutôt une mauvaise chose de pas proposer des sources de musique, de nouvelles musiques. Simplement sur les goûts de la personne, et sans prendre en compte quelque chose d'aussi personnel que la politique, voire de la religion. Enfin, pour moi, c'est presque de la religion à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a pas moyen d'avoir des bonnes playlists, parce que je trouve que les playlists globales sur, par exemple, ils en ont fait récemment qui sont pas mal du tout, je trouve, mais qui sont pas assez mises en avant, sur notamment, tu sais, se reposer, brunch oui, à la maison, ça.
Se relaxer, se détendre.
Celles-là sont pas trop mal.
Dîner entre amis, des choses comme ça. Ouais.
Voilà. Mais celles-là sont jamais mises en avant au même titre que des playlists plus engagées politiquement. Certains artistes sont mis en avant parce que c'est un engagement politique aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire à la fois plus subtil et plus respectueux de l'artiste.
Alors tu vois, c'est intéressant parce que c'est un aspect d'Apple Music auquel je suis absolument pas confronté.
Ah ouais ?
C'est-à-dire qu'en fait, l'onglet Explorer, qui représente tout de même un tiers d'Apple Music,
ouais.
je n'y vais jamais.
D'accord.
Parce qu'il y a un tropisme d'Apple Music pour ce qu'on appelait de manière un peu péjorative les musiques urbaines.
Ah.
Le hip-hop, la R&B...
Ça, c'est notre problème, effectivement.
Et pour ce qui concerne la France, notamment le rap, parce qu'il y a quand même une culture française du rap. Et t'ajoutes à ça, évidemment, pour chaque marché, les pop locales, qui sont des musiques que j'écoute pas. Et où tu ne trouves rien d'autre.
Mm-mm.
Et où cet onglet, en fait, cet onglet est absolument pas algorithmisé, j'ai envie de dire. C'est, au contraire, la page d'accueil d'Apple Music qui est exactement la même pour tout le monde, en tout cas en France.
Mm.
Et là, je vois, je dis nostalgie, Tube EDM, d'accord, Party Starters, Les Indispensables de la Chanson Française, Easy Rock. Hit des années 2010, Pop Française des années 2010. Donc là, déjà, tu vois, t'as 6 playlists, 6 ratées pour ce qui me concerne. Quoi. Donc, tu vois, cet onglet ne me sert à rien.
Ouais, ouais.
Or, je pense que la plupart des sélections qui sont éditorialisées et qui ont peut-être cette tendance politique sont dans cet onglet, typiquement.
Mm.
Et d'ailleurs, les playlists dont tu parlais, là, donc là, je les ai sous les yeux, hein, Calme, Des Amis à la Maison, Trajet du Soir, Soir de Rendez-vous, Se Préparer avant de sortir, elles sont là.
Mm-hmm.
Elles sont là aussi. Et moi, je les vois pas. Et finalement, moi, je passe mon temps dans l'onglet écouter, et encore très très peu, parce que finalement, les morceaux qui remontent... Enfin là, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'album Oui, de Pierre de Bettman, et donc là, j'ai plus de Pierre de Bettman. Et bah, il a sorti 5 albums... donc bah, j'ai ces 5 albums ce qui est un peu court jette donc finalement si tu veux moi Apple Music j'en ai une utilisation très manuelle qui est
ouais.
J'ouvre l'onglet explorer, je file tout en bas, je clique sur explorer par catégorie, déjà par catégorie et pas par genre hein, ça montre à quel point on est dans l'informatique et pas dans la musique.
Tellement.
Je défile pendant des heures pour trouver jazz qui est maintenant tout en bas après J-pop, J-rap, J-rock. Donc on a J-pop, J-rap, J-rock. Donc on a une granularité de la musique japonaise, mais on a jazz. C'est-à-dire que 36 genres, on est capable de les mettre dans jazz.
C'est chaud.
Et ensuite, là, je fais un peu mon shopping parmi ce qu'il me propose. Et notamment, pareil, il faut défiler pour trouver des nouveautés. Dans nouveautés, il me propose Black Radio Free, qui est un album de Robert Glasper, qui est sorti il y a maintenant... un peu plus de 2 mois, ce qui est quand même un peu embêtant. Et donc j'essaie de trouver, tant bien que mal, les nouveautés de jazz, et je refais pareil ensuite pour le blues, et je vois où ça nous mène. Donc tu vois, j'ai une utilisation qui est quand même très...
Ouais, tu vas chercher la chose, quoi. Enfin, tu creuses, quoi. Tu creuses.
Oui, ce qui est finalement l'inverse de ce que les services de streaming veulent, ou au contraire, les services de streaming veulent te faire remonter de la musique par les algorithmes et te laisser faire.
C'est l'anti-Spotify, vraiment. Enfin, c'est très bizarre. Je comprends pas.
Et je comprends qu'on puisse penser que la recommandation dans Apple Music est défaillante. Et elle est défaillante parce que finalement, on la compare à Spotify en disant « Regardez le triomphe que sont les découvertes de la semaine par rapport aux mix découvertes.
Mm. »
Et c'est vrai. Mais en fait, dans la logique de Spotify, tout passe par la playlist. Comparativement, c'est beaucoup plus dur de fouiller dans le catalogue de Spotify.
Mmh.
Trouver un album, et trouver un album précis, en naviguant à la souris et pas en utilisant le moteur de recherche. C'est difficile dans Spotify.
Ok.
Spotify, c'est l'empire de la playlist algorithmisée. Et effectivement, ils sont très très bons, et moi je suis toujours... impressionné quand je relance Spotify de le voir capable de se souvenir de ce que j'écoute et de manière extraordinairement précise. Regardez, c'est ce type qui, le jeudi entre 16h et 18h, écoute du blues, mais tout le reste de la semaine, il écoute du jazz. Et alors attention, pas n'importe quel jazz. Lui, il faut pas lui donner du big band, des cuivres, il faut plutôt lui donner de la guitare, du piano avec une petite touche d'électro. À ce moment-là de la semaine, il faut aller plutôt chercher vers notamment les jazzmen afro-américains qui infusent de la soul, du hip-hop, du rap. Et à ce moment-là de la semaine, il faut plutôt faire du truc très straight ou au contraire du truc complètement psychédélique qu'on va chercher chez les Allemands et les Autrichiens. Mm. Ce qui fait... Et Spotify est capable de faire tout ça. Et en plus de faire tout ça, il me filait une playlist avec 45 morceaux, ce qui est... Enfin, moi, ça me fait flipper, vraiment. Apple n'est pas capable de faire ça. Mais Apple est beaucoup plus capable de te proposer des sélections d'albums. Pour Spotify, c'est beaucoup plus compliqué. Leurs playlists qui sont autour d'un album, leurs playlists qui sont quelque part latérales, la navigation latérale à partir d'un album est incroyable. La navigation latérale par artiste aussi, notamment leur playlist qui s'appelle Les Inspirations de ou Les Indispensables de, oui. Elles sont incroyable, et c'est là où tu vois la force de l'équipe éditoriale d'Apple Music.
Ça, c'est redoutable, c'est vrai. Ouais.
Il y a des journalistes et des journalistes qui connaissent la musique qui travaillent pour Apple.
Ouais.
Donc ça, c'est génial. Et par exemple, enfin, si encore une fois, hein, si les gens parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui aiment le jazz, vous avez du mal à qu'est-ce que c'est art bop, post bop, néo bop. Bah voilà, il y a les indispensables art bop, les indispensables post bop, les indispensables néo bop. On écoute ça, on est bon, quoi. On est presque aussi intelligent qu'un journaleux de Jazz Mag. parce que voilà, elles sont juste très, 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 très bien foutues. Et en fait, je crois que... Et c'est là où, quelque part, je te rejoins sur la politique. Il y a une politique d'Apple Music, mais qui est une politique de qu'est-ce que c'est que l'objet musique. Et contrairement à Spotify qui prétend qu'on peut faire des choses qui sont uniquement de la playlist et que finalement le mode de consommation par défaut de la musique, ça doit être la playlist, Apple est à mon avis un peu plus subtil que ça, qui est la playlist, c'est une porte d'entrée dans la musique qui ensuite doit t'emmener vers le catalogue d'un artiste ou le catalogue dans un genre, et on fait de la navigation latérale. Alors que Spotify, c'est une navigation qui est beaucoup plus verticale. On va d'un album, on va d'un single à l'autre, on va d'un artiste à l'autre, et on s'arrête jamais en chemin, quoi. Écouter Explorer Radio, j'utilise l'onglet Écouter, je n'utilise quasiment pas l'onglet Explorer ou seulement pour aller trouver le bouton pour aller récupérer le jazz. Un onglet que j'ouvre très rarement et que j'ouvrais très rarement jusqu'ici, c'était l'onglet Radio, parce que c'est l'onglet d'Apple Music One. Et qui, même chose, moi qui n'écoute pas de musique urbaine,
c'est ça.
Apple Music One, ça me laisse un peu pantois. Sauf que je crois que cet onglet radio est en fait l'onglet le plus important d'Apple Music. Et que je crois qu'on ne peut pas utiliser correctement Apple Music sans utiliser l'onglet radio. Et qu'en fait, l'onglet radio, c'est le cœur du moteur de recommandation d'Apple.
Huh.
Et notamment, je me suis pris à écouter ces dernières semaines Groove Velocity Radio avec Bluey, où c'est une émission hebdomadaire. Et c'est génial. Ou t'as un épisode qui dure, je crois, une heure. En plus, c'est très bien foutu parce qu'à chaque fois que tu changes de morceau, c'est pas le nom de l'émission qui apparaît dans la barre de lecture, mais c'est le nom du morceau. Donc ça te permet, encore une fois, navigation latérale, de retrouver l'artiste, de retrouver l'album. Mm. Et c'est finalement une personne humaine, pas un algorithme, qui te parle et qui te propose une sélection musicale autour d'un thème, autour d'un genre, ou juste autour d'une ambiance, dans le cas présent, de la musique qui groove un peu. Et donc on va du jazz vers l'électronica, en passant par de la pop un peu infusée de soul, et beaucoup de musique afro-américaine, mais dans plusieurs genres différents. Et ça marche.
Hmm.
Et on navigue de manière très latérale, et c'est là où est l'essentiel du moteur de recommandation d'Apple. Et où j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient avec justement les musiques urbaines. En France, par exemple, le Code Radio, qui est l'émission de Mehdi Maizi, elle est géniale. Si tu veux comprendre ce qui se passe dans la musique en France, notamment sur le hip-hop et sur le rap, ça marche. Et ça marche mieux que n'importe quelle playlist sur Spotify.
Ok.
Et donc, elle est là, la politique, qui est que la musique, pour Apple, c'est un objet qui doit être traité par des humains. Mais c'est un peu lourdingue comme approche quand t'es habitué à Spotify ou quand t'es habitué à d'autres supports très algorithmisés, typiquement la vidéo avec Netflix.
Ouais.
Et donc, je suis pas d'accord avec toi sur le côté il pousse un agenda social, disons, avec Apple Music, mais je pense que je suis pas d'accord avec toi parce que je ne pratique pas assez l'onglet Explorer.
Mm.
Par contre, je crois que, et notamment avec l'onglet Radio, mais aussi avec l'onglet Écouter, il pousse une vision politique de la musique qui est il faut aller chercher des albums, il faut aller chercher des artistes.
Ouais.
Et il faut prendre le temps d'écouter de la musique, et ça passe y compris par prendre le temps d'écouter une heure, une émission, de faire de la radio à la papa, quoi. Je veux dire, c'est quand même...
oui, c'est ça.
Enfin, il y a un calendrier, il y a une grille, quoi. Il y a vraiment une grille de radio, tu peux l'écouter en direct, quoi. Tu peux vraiment faire comme si on était en 1920, quoi. mais avec toute la puissance d'un catalogue de streaming derrière. Et c'est là où moi je vois la vision politique, quoi, si tu veux.
Ouais, je comprends. C'est intéressant. C'est vrai qu'ils avaient, enfin, tu sais que c'est encore plus développé aux États-Unis avec les radios des artistes. Ouais. Elton John, Shania Twain qui a sa propre radio maintenant. Et on n'a pas encore ça tout à fait en France. Enfin, on a le code effectivement qui est bien installé, mais je suis pas sûr qu'on ait d'équivalent d'artistes qui ont leur radio en France.
Non, je crois pas. Mais ce serait
génial pour le coup, parce que un artiste qui interviewe un autre artiste, enfin qui met des playlists comme ça, pour le coup, ce serait vraiment.
Et je pense que ça rejoindrait les playlists, les inspirations d'eux, qui sont mais merveilleuses,
ouais.
Merveilleuses.
Ouais. Il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, c'est vrai. Mais d'intelligence dans le sens, enfin.
Mais humaine.
Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Sans vouloir faire cocher des cases aux gens qui nous écoutent. Intelligence artificielle.
Bingo.